Saison 2, l'automne. Chapitre 25, le linceul des teinturiers. Le village de Chevreuse se réveillait au petit matin. Une légère brume s'élevait des bassins de teinture, un fin brouillard aux couleurs de barbapapa d'autrefois. Rose bonbon, vert pâle, bleu pastel. On aurait cru un village de contes de fées, un décor qu'on ne peut imaginer qu'en rêve et qui disparaît au réveil. Partout, des compagnons, hôtes d'épices et de pétales sur le dos, équipés de leurs traditionnels râteaux, battoirs et pilons, allaient et venaient. Ils n'ont pas conscience du danger ? S'inquiéta Lunella. Ogénor est capable de tous les massacrer ? Elle était terrée avec les autres résistants dans l'une des multiples galeries de craie autour du village. La vallée de la Chevreuse était un véritable labyrinthe de grottes et de tunnels naturels, creusés par l'eau au fil des millénaires.
« Bien sûr que si, » assura Rick. « Nous les avons tous prévenus. Ils se contentent de jouer la comédie au cas où des patrouilleurs de l'Empire les observeraient. Mais dès que l'armée impériale attaquera, ils se réfugieront dans les galeries. Ils abandonneront le village, mais ce sera mieux que de perdre la vie. Le plan d'évacuation a été organisé. Nous les couvrirons. »
Osman, allongé derrière lui, avait déplié une carte précise des souterrains. Liu, Gulo-Gulo, Valère, ainsi qu'une dizaine de rebelles fidèles à Rick, essayaient de mémoriser le plan.
« Nous les couvrirons !» répéta Valère. « Nous sommes 15, face à une armée entière !»
Liu tentait d'essuyer la buée colorée collée sur ses lunettes.
« Il faudra juste tenir quelques minutes, le temps que tout le monde s'enfuit. Dès que les soldats approcheront, nous utiliserons les fumibales. Une douzaine suffiront pour plonger le village dans une purée de pois. Ça laissera largement le temps aux teinturiers de se sauver. »
C'était leur plan. Liu et Lunella avaient mis au point des petites balles qui, quand on les lançait, dégageaient une intense fumée, inodore et inoffensive. Ils s'en serviraient au moment décisif pour évacuer le village. Ils virent soudain, à la cime d'un sapin dominant le versant de la vallée, une ombre s'agiter. Le chapeau de Wayne. C'était le signal. L'armée impériale arrivait. Il était convenu que Wayne lance son chapeau en l'air chaque fois qu'il compterait 100 soldats. Il le lança 4 fois. Les résistants se regardèrent, stupéfaits. Ogénor avait déployé une armée de 400 soldats pour attaquer 50 teinturiers désarmés. C'était totalement disproportionné. « Peu importe qu'il soit 10 ou 1000 !» affirma Liu en serrant une fumibale dans sa main. « Le brouillard couvrira la retraite des teinturiers et ces mercenaires ne trouveront qu'un village vide quand ils entreront. » Il joignit ses paumes avant d'incliner ses doigts en forme de V, puis de les plier en U. Tous effectuèrent le même geste, leur union sacrée.
« Pressons !» fit Rick.
L'empesteur fut le premier à ouvrir ses mains pour distribuer les autres projectiles à ses compagnons. Moins d'une minute plus tard, l'armée apparut de chaque côté de la vallée. Elle marchait au pas, rythmée par le son d'un tambour, encerclant méthodiquement le village pour couper toute issue.
« On attend !» décida Rick. « L'effet de surprise doit être total !»
Il était prévu que 2 teinturiers soufflent dans une corne de bouc pour donner le signal d'évacuation. Dès que les villageois l'entendraient, ils devraient tous s'engouffrer dans la galerie de craie la plus proche, alors que les résistants faisaient exploser les fumibales. L'armée impériale approchait, dépassant les premiers chalets isolés et les fermes de tournesol entourant le village. Chaque soldat était équipé d'un bow à pointe d'acier, d'un couteau passé à la ceinture et d'un fouet lasso enroulé autour de l'épaule. Ils arboraient fièrement leurs médailles argentées de chevalier des bois d'honneur agrafées à la poitrine. Novak, monté sur un cheval alezan, menait l'armée qui progressait en aval, et Helios, sur un second pur sang, face au soleil levant, celle en amont. Le jour se levait sur un ciel clair et venteux. La brume pastel se dissipait. Ils avaient attendu les conditions idéales pour prendre possession de la vallée. Quels ordres avaient-ils reçus ? Détruire les maisons ? Tout brûler ? Faire le maximum de prisonniers ? Tuer ?
Maintenant !
Cria Rick. Aussitôt, Lunella, Valère, Liu, Gulo-Gulo, Osman et les autres résistants lancèrent les fumibales hors de la galerie. Au moment précis où l'intense brouillard s'éleva, un puissant son de trompe fit trembler les murs de Chevreuse. Le signal. Chaque compagnon, chaque compagnonne devait rejoindre à tâtons une issue souterraine. L'armée impériale se rendrait maîtresse d'un village désert. Liu sentit d'abord un frisson sous ses pieds. Valère eut l'impression qu'une racine d'arbre le chatouillait. Gulo-Gulo, habitué à chasser, entendit le frôlement presque imperceptible d'un rongeur sortant de son terrier. Un rongeur? Ou des milliers de rongeurs? Lunella hurla. Trois monstrueux rats sans poils grimpaient le long de sa jambe. Liu saisit son beau pour les repousser, mais déjà Valère et Osman étaient submergés par des dizaines d'autres créatures roses aux dents de vampires. « Des rats taupes nus !» hurla Rick. Il en sortait de partout, de chaque galerie de craie, mais aussi d'autres trous dans la roche friable que leurs museaux perçaient. Les bêtes paraissaient surgir du centre de la terre et la dévorer. « Il faut remonter à la surface !» ordonna Liu. « Ou ces rats vont nous bouffer vivants ! Ces sales bestioles sont aveugles, mais elles nous sentent ! Impossible de fuir par les souterrains !» Les 15 résistants durent se résoudre à quitter les tunnels pour se retrouver sur la place centrale du village, enfumée par les fumibales. Les teinturiers, eux aussi, s'y étaient regroupés. Les corps paniqués se cognaient dans le brouillard, se touchaient sans se voir. La trompe continuait de résonner. Le tambour de l'armée impériale se rapprochait au rythme du sol qui tremblait.
« On a été piégés !» cria Rick. « Ces saloperies de rataupes ne mettront pas le museau dehors, mais ils nous coupent toute retraite par les sous-sols. Les soldats vont nous cueillir !»«
C'est quoi le plan ?»
hurla Gulo-Gulo, tétanisé.
« Fuir !»
ordonna la voix puissante de Rick. Orfeo et Tchado laissèrent l'armée impériale s'enfoncer dans le brouillard, tel un infranchissable filet qui se resserrait. Ils se tenaient avec prudence au-dessus de la nappe. La brume équivalait à la nuit. Aucun soleil ne la perçait. S'ils s'y aventuraient, aucune ombre ne les accompagnerait. Peu importait. Leur caracal avait reniflé une piste, au-dessus du village, en direction d'une cabane de bergers isolée avec vue panoramique sur la vallée. La cachette idéale pour voir ses ennemis arriver sans être repérés. Tchado libéra la laisse des 8 caracals. Au palais de l'empereur, lorsqu'ils avaient compris qu'ils n'avaient pas ramené le bon bébé, Orfeo et Tchado avaient cru que le grand cerf les ferait exécuter. Heureusement, juste avant qu'Ogénor n'ordonne aux SSS de les jeter au cachot, Orfeo avait ouvert son sac. Il avait eu le réflexe d'emporter les affaires du bébé, tout ce qu'ils avaient pu récupérer après avoir assassiné les parents de l'enfant. Des tétines, des biberons, des bavoirs, des langes, des robes. Des robes? Une fillette vivait donc sous le même toit que ce nourrisson. Immédiatement, l'empereur avait compris. Bill et Chrysante les avaient piégés. Ils avaient sacrifié un autre enfant pour s'échapper. Sauf qu'avec une gamine, ils ne pouvaient pas s'être cachés bien loin. Grâce à l'odeur des vêtements, les caracals de Tchado retrouveraient facilement sa piste. Pendant que les généraux Novak et Helios s'occupaient des phases d'arc-en-ciel, eux se chargeraient de la petite famille de fuyards, sans oublier cette fois de récupérer cette fameuse page 17 à laquelle l'empereur tenait tant. Les caracals, en quelques bonds puissants et silencieux, s'étaient approchés de la cabane de berger. Aux ordres muets des ombrageurs, ils se postèrent autour, en un cercle parfait. Aucun doute, les fugitifs se trouvaient là. L'odorat des félins ne pouvait pas les tromper. Cette fois, Bill et Chrysante ne s'envoleraient pas. Un seul geste de Tchado, ils seraient déchiquetés. Le grand cerf sera satisfait, pensa Orfeo. Il ne restait plus qu'une nouvelle bévue à éviter, que les fauves n'en profitent pour dévorer le bébé. Le brouillard artificiel des fumibales commençait à se dissiper. Il ne restait plus que des lambeaux de brume déchirés par le soleil rasant. Les soldats de l'armée impériale quadrillaient avec minutie le terrain. Leur science de la guerre contrastait avec la panique qui s'emparait des habitants. Les teinturiers essayaient de quitter le village par toutes les issues possibles, mais des rangées de militaires surgissaient de partout, coupant toute retraite. Les rares compagnons à avoir tenté d'atteindre les galeries souterraines étaient ressortis sur le champ, couverts de morsures de rataupe. Trois teinturiers musclés, aux bras rouges de sureau, essayèrent de forcer le passage en s'armant de pilons à pigments. Ils furent immédiatement repoussés et mis à terre. Une colonne entière de soldats, sans ralentir, les piétina. D'autres les jetèrent sans ménagement dans une charrette, inanimés, jambes brisées et visages tuméfiés. La toile d'araignée se refermait sur les villageois et les résistants. Rick donnait de la voix, ordonnant à tous de se regrouper, de lutter, mais plus personne, dans la cohue, ne l'écoutait. L'armée entrait sur la grande place du village. Novak, toujours juché sur son pur sang, observa en vainqueur la fontaine, le four dans lequel les teinturiers chauffaient les jarres d'huile et d'essence de térébenthine. Il trempa avec nonchalance son beau dans l'une des amphores, puis l'approcha de l'âtre rougeoyant. Son bâton s'enflamma. Il maintint un instant la torche ardente au-dessus de sa tête, avant de la lancer tel un javelot. Le beau alla se planter dans un toit de chaume. Le feu, attisé par le vent chaud, se propagea aussitôt. Le général n'eut pas besoin de donner le moindre ordre. Les soldats les plus proches avaient compris et l'imitèrent. Quelques minutes plus tard, toutes les maisons du village étaient rongées par les flammes. Les teinturiers n'avaient plus le choix. Ils se repliaient progressivement vers les grands bassins de teinture. Seuls les résistants tentaient de retarder l'avancée des soldats. Rick, Wayne, Osman, Gulo-Gulo, Lunella s'étaient regroupés autour d'un verger planté au cœur du village pour fournir quelques fruits et du bois de chauffe. Les pommiers, poiriers, cerisiers empêchaient les soldats d'attaquer de front, mais à 1 contre 30, combien de temps les rebelles résisteraient-ils? Liu se tenait en retrait. Il se savait inutile dans ce genre de corps à corps. Il aurait gêné ses amis sans pouvoir porter le moindre coup aux gardes impériaux. Il s'en voulait de ne posséder aucun autre muscle que ceux de son cerveau, d'être incapable de protéger Lunella, qui repoussait furieusement les soldats à l'aide de son beau de mûrier noir, ou de sauver le sublimateur qui pesait une tonne dans sa poche. Il s'en voulait surtout d'être tombé dans le piège tendu par Ogénor. L'empereur avait organisé l'attaque de ce village pour obliger la résistance à sortir de sa cachette et ainsi définitivement l'éliminer.
« Passe-le-moi !»
fit une voix au-dessus de lui. Liu leva les yeux. Il n'apercevait que le feuillage touffu d'un cerisier.
« Le sublimateur !»
poursuivit la voix.
« Passe-le-moi !»
Le savant mit quelques secondes supplémentaires à reconnaître les intonations de Valère. L'historien, parfaitement invisible, avait grimpé dans l'arbre sans que personne ne remarque.
« J'ai été pendant un an l'élève de Lupunera, » expliqua Valère. « Je peux essayer de me faufiler d'arbre en arbre et m'évanouir dans la nature. »
Plus que jamais, les soldats les encerclaient. Novak lui-même s'était approché et, juché sur son cheval, commandait l'assaut final. D'une seconde à l'autre, ils seraient tous pris, et Valère aussi. Caché ou non dans son arbre, il n'avait aucune chance de leur échapper. Il serait tout de suite repéré s'il quittait son perchoir. Mais y avait-il un autre espoir? Liu vérifia que chaque soldat impérial était concentré sur un adversaire, sortit la boussole de sa poche et, aussi vite qu'il le put, la lança en direction de la voie. La main de Valère surgit d'entre les feuillages, l'attrapa et disparut. Sauvé? Liu vit avec horreur Novak du haut de sa monture, pointer un doigt.
« Dans l'arbre ! Il a récupéré la boussole que l'empereur recherche ! Attrapez-le !»
Les soldats chargèrent. Les 15 résistants ne purent les repousser cette fois. Novak s'engagea le premier, pressé d'atteindre le cerisier. Rick fut pourtant le plus rapide. Le capitaine blanc prit appui sur son beau comme s'il s'agissait d'une perche et, les deux pieds en avant, se propulsa sur le général Borgne. Novak, désarçonné par le choc, tenta de maintenir son équilibre, mais Rick avait déjà pris sa place sur la selle. Un second coup de beau frappa le général à l'arcade sourcilière. Il tomba. Les soldats reculèrent, craignant de le piétiner. Rick n'hésita pas.
Il tira sur les rênes pour que l'animal se cabre, pour que ses assaillants s'écartent devant les sabots menaçants. Puis, d'un violent coup de talon, lança les talons au galop. Les soldats se jetèrent sur le côté pour ne pas être percutés. Déjà, dans un nuage de poussière, le capitaine Blanc s'éloignait. Novak se relevait, œil de verre brisé. La masse des soldats impériaux, à présent, submergeait les résistants. Liu eut juste le temps de lever les yeux vers le cerisier. Trois militaires y grimpaient. Trop tard, profitant de la diversion et de la confusion, Valère avait disparu. Derrière la fenêtre de la cabane, Chrysante observait le village en flammes. Elle disposait d'une vue dégagée sur toute la vallée. Elle avait choisi avec soin cette cachette, isolée des autres maisons, suffisamment haut perché pour être certaine de voir les mercenaires d'Augénor arriver. Cela n'avait pas empêché ces ombrageurs et leurs huit fauves de les encercler. Elle n'avait pas imaginé qu'ils reviendraient aussi nombreux, qu'ils les retrouveraient aussi facilement. Elle berça Sélénée, accrochée contre son sein à l'aide d'une grande écharpe de portage.
« C'est ta faute !»
fit Chrysante. Bill avait enterré sa longue vue dans la terre et enfilé sa cape de tigre.
« Tu les as mis sur notre piste en leur désignant la maison d'Azul et de Garance. Tu les as laissés renifler notre odeur. Un an d'effort pour échapper à Augénor et tu as tout fichu en l'air !»
Bill, sans répondre, attrapa une fourche et un filet de pêche. Cet idiot comptait-il vraiment vaincre les huit fauves avec trois dents et une épuisette? Chrysante s'adossa au mur le plus proche. Ses vertèbres la faisaient souffrir. Sélénée était de plus en plus lourde, elle pesait près de 10 kilos, mais Chrysante refusait de ne plus la porter. Tout comme elle refusait que Sélénée grandisse, marche, parle, ne soit plus une poupée muette et docile.
« Chat, chat !»
fit Sélénée avec un grand sourire en regardant par la fenêtre. Les huit caracals se tenaient à 5 mètres de la cabane. Bill tourna la poignée de la porte d'entrée.
« Ne t'inquiète pas, mon bébé. Papa va t'en débarrasser. Ce sera pas la première fois que j'égorge des matous. »
Chrysante avança de 3 pas et se planta devant lui.
« Idiot, tu vas te faire dévorer. Tu as oublié la prophétie des 3 rois? Akan, Jeanne d'Arc et toi. L'un s'en ira, l'un règnera et le 3e mourra. Tu tiens vraiment à être celui qui va mourir ?»
Bill la repoussa doucement.
« Ils nous tueront de toute façon. Augénor a donné l'ordre de récupérer Sélénée et de nous éliminer comme ils ont assassiné Azul et Garance. »
Chrysante tenta une dernière fois de s'interposer.
« Ils ne nous tueront pas, si tu me laisses faire. »
Bill embrassa Sélénée sur le front.
« Désolé, Chris. J'ai passé l'âge de croire à tes trucs de sorcière. »
Il leva les mains à la hauteur de son cou, passa son collier de dents de tigre au-dessus de sa tête et le confia à la fillette. Elle le serra comme un trésor entre ses petits poings.
« Papa revient tout de suite. Il va juste chasser les gros chats. »
Il posa sa couronne d'osier sur sa tête et sortit. La seconde suivante, en un seul bond phénoménal, 8 caracals, crocs et griffes en avant, se jetaient sur lui. Entre les arbres du verger, Gulo-Gulo fut le premier à être attrapé. 10 soldats, malgré son poids, le soulevèrent et le rouèrent de coups. Lunella avait attrapé la main de Liu et s'était reculé de quelques pas, en direction des jarres d'huile et des sacs de poudre blanche entreposés au pied des troncs.
« De la chaux-vive ? » analysa en un éclair le savant. « Ce truc te ronge la peau dès que tu le touches. On peut s'en servir comme une arme pour... »
Lunella n'avait pas attendu les conseils de Liu et se penchait déjà sur les sacs.
« Ils ne doivent pas me prendre vivante »
souffla-t-elle.
« Quoi ? »
fit le savant sans comprendre.
« Qu'est-ce que tu... »
Les soldats approchaient, simplement retardé par 2 derniers résistants, Osman et Wayne.
Je ne dois pas tomber entre les mains d'Augénor,
continua la loli-girl. Avant même que Liu puisse réagir, Lunella s'agenouilla, attrapa à pleine main 2 poignées de chaux-vive et projeta la poudre toxique sur sa figure. Elle hurla. Liu hurla.
Le visage de Lunella n'était plus que douleur, feu, charpie, cloque. Elle s'écroula. Des lambeaux de chair se décollaient de ses joues, de son front, de son menton. Liu, alors que quatre soldats le saisissaient et l'entraînaient loin de son amoureuse, criait encore
« Pourquoi, Lunella ? Pourquoi ?»
Constel reçut un premier coup de beau dans le tibia. Le choc la fit tomber à genoux. Elle serra son cahier entre ses mains et cracha.
« Je suis journaliste, reporter de guerre. Vous n'avez pas le droit. »
Un second coup de beau lui arracha son cahier qui valsa jusqu'à un bassin brun.
« J'ai l'autorisation d'être ici !»
protesta la journaliste. Elle tâtonna dans son sac pour en sortir sa carte de presse, mais un nouveau coup de bâton sur l'avant-bras l'en empêcha. D'un violent coup de botte, Helios l'envoya rouler dans la boue couleur moutarde d'un pot de gomme-gutte renversé.
« Pas de témoin, a dit l'empereur. Tu aurais dû continuer à écrire sur les petites fleurs, les robes de l'impératrice ou le courrier du cœur. Hein? On s'occupera de toi plus tard. »
Le général était déjà reparti superviser la capture des derniers résistants, laissant la journaliste patauger dans sa gadoue cacadoie.
« Viens !»
Constel baissa les yeux. La voix provenait des fagots empilés contre le lavoir de pierre. Les branches s'écartèrent et elle reconnut le visage rouge de Valère. La journaliste observa les maisons en flammes autour d'elle, les soldats qui jetaient au feu tout ce qu'ils trouvaient, outils, tonneaux ou draps, puis haussa les épaules.
« Pour aller où? Ils sont partout.
On va s'enfuir par les tunnels !»
Constel s'était assise dans la boue jaune foncée, essayant vainement de récupérer les pages déchirées de son cahier.
« Impossible! Les galeries sont infestées de rats taupes. Augénor a décidé de faire le ménage, personne n'en réchappera.
Si, moi, et toi aussi, si tu me suis. »
Valère s'était approché de la journaliste. L'historien, remarquait-elle, n'avait rien d'un héros avec son visage couvert de boutons d'acné, son corps chétif et ses lunettes tordues. Il devait sans doute se dire la même chose d'elle. Elle n'avait rien d'une aventurière avec ses kilos en trop, son visage flasque comme un fromage de brebis et sa peau couleur lait caillé.
« Tu connais un moyen d'échapper aux rats ?»«
Oui, un truc que m'a appris Louponera !»
Il sortit de sa poche une poignée de graines noires.
« Frotte-toi la peau avec ça. C'est de la jusquiame noire. Les rongeurs détestent cette odeur, et comme ils sont aveugles, ils ne nous approcheront pas. »
Constel n'hésita pas. Elle écrasa les graines dans sa main et étala le jus sur sa peau. Elle dégageait d'insupportables effluves âcres.
« Viens maintenant! Ne traînons pas, c'était mes dernières graines !»
Valère lui tendit la main, la journaliste l'attrapa. Ils s'éloignèrent du lavoir et rampèrent vers un puits qui descendait directement dans l'une des galeries.
« Mais pourquoi fais-tu ça pour moi ?»
demanda la journaliste avant d'enjamber la margelle.
« Je ne sais pas !»
Bill enfonça sa fourche dans la gorge du premier caracal, le tuant sur le coup.
« Satan !» hurla Chado à 10 mètres de lui. « Tu vas le payer! Ils vont te dévorer vivant !»
Le visage de Bill était labouré de griffures, de morsures, mais il tenait encore debout, campé sur ses deux jambes. L'ombre des deux ombrageurs s'étendait sur la cabane du berger. Quelques centaines de mètres plus loin, ils entendaient les cris de terreur monter du village. Chado leva la main, prêt à la baisser pour lancer une seconde et dernière fois ses fauves sur Bill. La porte de la cabane s'ouvrit. Chrysante en sortit. Elle avait dû se résoudre à poser ses lunettes. La fillette la tenait de sa main droite et dans la gauche serrait le collier de dents de tigre.
« Qu'il bouffe la sorcière aussi !» ordonna Orfeo. « Sans toucher à la gamine !»
Les caracals n'attendaient qu'un signal, tout muscle bandé.
« Attendez !»
cria Chrysante.
« Je suis sûr qu'Augénor vous a demandé de nous fouiller pour récupérer un certain document. »
Orfeo hésita. Sélénée avait lâché la main de sa maman pour aller caresser les gros chats.
« Je suis la seule à savoir où est cachée cette page 17. Si vous me tuez, elle sera perdue à jamais. »«
Tu bluffes !» tenta Orfeo.
En deux pas, Chrysante avait rattrapé la fillette. Les caracals la regardaient en se léchant les babines.
« Peut-être ?»
fit Chrysante.
« Ou peut-être pas. Vous risquez quoi ? Si vous me ramenez vivante au palais impérial, Augénor pourra me torturer pour me faire parler. Mais si je suis morte ?»
Chrysante fit grimper Sélénée dans ses bras, se forçant à ne pas grimacer. Orfeo réfléchissait.
« La sorcière a raison, » finit-il par lancer à Tchado. « On la ramène au palais. Tes fauves peuvent dévorer l'autre. »
Chrysante n'ajouta pas un mot. Bill Sarkbouta, fourche en avant, essayant de surveiller les 7 félins à la fois. Il essuya d'un revers de manche le sang qui coulait de son visage balafré. Sélénée, amusée, désignait du doigt les fauves.
« Ça, ça, ça !»
et finit par pointer son petit index vers la cape de tigre.
« Pas, pas !»
Chrysante ferma les yeux, hésita, puis finit par se tourner vers les deux ombrageurs.
« Non !»
ordonna-t-elle juste avant que Tchado baisse son bras.
« Épargnez-le, lui aussi !»
Tous les résistants, à l'exception de Valère et Constel, avaient été faits prisonniers. Ils avaient été jetés, enchaînés dans une charrette qui les emporterait au palais. Sous une solide escorte, Wayne, Osman, Gulo-Gulo et Liu se relayaient pour recouvrir d'un linge mouillé, trempé dans la fontaine, le visage brûlé vif de Lunella. Le trajet jusqu'à Paris, selon Osman, prendrait près de 5 heures. Lunella survivrait-elle à ses plaies? Partout ailleurs, les villageois n'opposaient désormais plus aucune résistance, même si quelques-uns tentaient encore d'organiser la débandade.
« Ne vous dirigez pas vers les bassins de teinture! Regroupez-vous! Rapprochez-vous des maisons !»
Des maisons en feu? Du village qui partait en fumée? Des nuages de produits toxiques qui s'élevaient des flammes? Était-il fou? La majorité des teinturiers se tassaient sur le rebord des bassins, mais d'autres, sous la pression de l'incendie et des soldats impériaux, continuaient de reculer. Bientôt, les premiers compagnons tombèrent dans un réservoir d'indigo. Les cris et les appels au secours ne furent pas suffisants pour stopper la panique. La masse compacte de villageois reculait toujours, entraînant d'autres malchanceux dans les bassins de Réséda et de Curcuma.
« Arrêtez !»
criait-on dans les rangs.
« Aidez-nous ! Ils ne savent pas nager ! Jetez-nous une corde, une branche, n'importe quoi qu'on puisse attraper !»
Près de 20 teinturiers étaient tombés, et seuls quelques-uns étaient suffisamment proches du bord pour qu'on leur tende la main. Les autres se débattaient, agitaient les mains, ouvraient la bouche pour crier, mais chaque fois avalaient une atroce gorgée d'eau pigmentée. Leurs visages, leurs bras, leurs mains, entièrement peints, n'avaient plus rien d'humain. Plusieurs villageois tentèrent de leur lancer ce qu'ils trouvaient, c'est-à-dire les draps blancs empilés près des bassins avant d'être teints. Les longs tissus furent roulés à la hâte avant d'être jetés, mais alourdis par les liquides poisseux, ils s'enfoncèrent trop rapidement. Il fallait les tirer, les rouler à nouveau, réessayer.
« Vite ! Je ne vais pas tenir plus long !»
Déjà quelques visages, tels des bulles colorées qui auraient crevé, disparaissaient sous la surface sans jamais remonter. Le temps pressait. En sauver au moins quelques-uns. Quelques soldats impériaux eurent le courage d'aider les teinturiers. Ni Novak, qui soignait son œil blessé, ni Helios, dont personne ne voyait le regard derrière ses lunettes noires, n'osèrent le leur interdire. À force d'efforts, les sauveteurs parvinrent à remonter à la surface. Batista, une petite teinturière entièrement couverte de chlorophylle. Morel, un cueilleur de bruyère, et Assam, une écraseuse de cochenille. 3 parmi les 18 qui avaient basculé, écoulé. Le village achevait de se consumer. Dans un silence épouvantable, les plus valides étendirent les draps colorés comme autant de linceuls attendant qu'on y dépose les cadavres quand on les aurait repêchés.
« Le grand cerf voulait un exemple !»
murmura Helios à l'oreille de Novak.
« 15 noyés. Il sera content. »
Novak ne répondit pas. Il venait d'entendre un étrange tremblement, comme si le sol s'était mis à vibrer. Il mit de longues secondes à comprendre. Un cheval approchait. D'un coup, toujours aussi silencieusement, la foule des villageois survivants s'ouvrit. Les généraux n'eurent pas le temps de réagir. Ils ne virent qu'une silhouette à la chevelure immaculée, lancée au galop sur le pur sang alezan volé à Novak. Sans ralentir, Rick se pencha. Sa main balaya le sol et ramassa à la volée autant de draps mortuaires qu'il le put. Un violet, un bleu, un vert, un jaune, un orange, un rouge. Avant même que les soldats ne s'organisent, sa silhouette fantomatique disparaissait, loin dans la vallée, semant derrière elle une pluie multicolore de pigments.
« Le capitaine blanc !»
murmurèrent quelques villageois. Certains levèrent leurs mains et applaudirent avant qu'une rafale de beaux ne s'abatte sur eux.